Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
J'aimerais vous demander, quels sont vos réseaux ? Parce que vous en avez forcément, des réseaux. On en parle, c'est très à la mode en ce moment, les réseaux sociaux. Mais avant les réseaux sociaux, il y a d'autres réseaux qui existaient, comme par exemple la famille, c'est un réseau. Les amis, c'est un réseau. Les collègues de travail, c'est un réseau. Bien sûr, les réseaux sociaux, Facebook, club de sport, club de musique, tout ça, ce sont des réseaux. On est en relation avec d'autres personnes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le réseau dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'Église. Et j'aimerais vous demander, quel est celui où vous vous sentez le mieux ? Le réseau dans lequel vous vous sentez le plus en sécurité, où vous êtes content de vous retrouver ? Réfléchissons à cette question. Où vous vous sentez accepté ? Et quel est celui qui va durer le plus longtemps, pour l'éternité ? Bien entendu, il n'y a qu'une seule réponse, ça sera le réseau de l'Église. L'Église. Alors une question, nous sommes au dimanche de Pentecôte, comment vivons-nous l'Église ? Actuellement, l'Église, elle n'est qu'un avant-goût de ce que nous allons vivre pour l'éternité. Avec ses imperfections, on n'est pas encore arrivé, hein ? Voilà, ça sera au ciel. Mais là-haut, ça va être merveilleux. On sera parfait. Parce que, vu le plan de Dieu pour son Église, qui est développé à la fin du livre de l'Apocalypse, eh bien, autant nous préparer déjà maintenant, à bien vivre l'Église, déjà maintenant. Alors, vous l'avez compris, on va terminer aujourd'hui le livre de l'Apocalypse, hein, qu'on a suivi depuis l'année dernière déjà, hein, et on arrive à la fin. Et à la fin, effectivement, eh bien, on voit le plan de Dieu pour l'Église, l'aboutissement du plan de Dieu pour l'Église, un plan glorieux. Et je vous propose donc de prendre les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, 21 et 22. J'ai intitulé mon message « Dieu parmi les hommes ». Apocalypse 21 et 22, et je vais prier avant cela, avant de lire. Seigneur, quand nous voyons ton plan, Seigneur, pour ton Église, comment ne pas nous incliner devant toi ? Nous sommes rends-nous émerveillés, Seigneur, devant ce que tu prévois pour nous, Seigneur, à la fin des temps et ce temps glorieux, Seigneur, où tu vas revenir pour nous prendre avec toi. Seigneur, ouvre-nous le cœur et l'intelligence, donne-nous de suivre ta parole, de la recevoir, Seigneur. Rends-nous disposés à cela. Je mets vraiment tout ce qui nous préoccupe à l'extérieur de cette Église, Seigneur, pour que nous soyons pleinement disposés, Seigneur, à être pleinement réceptifs à ta parole. En Jésus-Christ, amen. Et je m'abandonne à toi. Amen. Apocalypse 21 et 22, donc je lirai à partir du chapitre 21, verset 1. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. » Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car là il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc chapitre 22. Juste quelques secondes de pause pour intégrer, pour déjà mémoriser. Je vous invite juste à quelques secondes de pause avant de poursuivre. Je poursuis avec le chapitre 22. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du ciel, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Une fin glorieuse que nous connaissons par l'Écriture, par la parole de Dieu. Glorieux pour ce qui nous attend. Par l'Écriture, la vérité centrale, c'est que par l'Écriture, Dieu nous atteste qu'il veut faire un avec nous, l'Église, son peuple. Il veut faire un avec nous, rien de moins. C'est un mariage. Et comment? Eh bien, nous verrons dans un premier temps l'arrivée de l'épouse. Vous savez, dans ce mariage, l'épouse, l'arrivée glorieuse de l'épouse à la fin des temps, l'épouse, la Jérusalem céleste. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous verrons que Dieu nous atteste qu'il veut faire un avec nous, son peuple. Comment? Par l'Écriture. Il atteste que l'Écriture toute entière, de Genèse à Apocalypse, est parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui atteste cela. Il est le commencement et la fin. Nous verrons cela dans un deuxième temps. Donc, premièrement, eh bien, voyons ce temps enfin glorieux où l'épouse arrive. L'arrivée de l'épouse, la Jérusalem céleste, cette épouse qui vient de Dieu et qui arrive avec la gloire de Dieu. Jean a la vision de ce qui va arriver bientôt. Il voit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nouveau dans quel sens? Eh bien, le péché et son salaire qu'est la mort ont disparu. Toutes les conséquences du péché, la maladie, le deuil, la mort, tout ça, ça n'existera plus, ça sera exclu. Jean, eh bien, il voit la Jérusalem céleste qui avait été enlevée au ciel déjà. Eh bien là, il la voit descendre d'auprès de Dieu. Elle vient de Dieu. Et vous savez, dans un mariage, souvent la mariée arrive accompagnée de son père, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est la mariée, elle vient du Père. Elle vient du ciel. Elle vient du Père et c'est une arrivée glorieuse. C'est le ciel qui vient sur la terre. Quel contraste avec la grande prostituée qui était toute terrestre. Et Jean voit la Jérusalem céleste se déposer sur une haute montagne d'une nouvelle terre. C'est un nouveau monde, et ce nouveau monde, eh bien, on peut dire, c'est le cadeau de mariage. C'est le cadeau de mariage de Dieu le Père, que le Père offre à son Fils et à nous, l'Église. Dieu dit qu'il fait toute chose nouvelle. Toute chose. Ça veut dire, l'Église, elle sera aussi toute nouvelle, toute neuve. Nous aussi. Elle qui semble tellement imparfaite aujourd'hui, tellement fragile avec ses problèmes, ses tensions, tellement de dénominations, elle n'aura plus de défauts à ce moment glorieux. L'Église sera toute neuve, toute nouvelle. D'ordinaire aussi, si on prend nos mariages terrestres, eh bien, d'ordinaire, c'est le fiancé qui arrive en premier. Et il attend, et toute l'Église attend avec lui la fiancée, qui souvent prend son temps, elle se fait attendre, parce qu'effectivement, elle s'est faite belle dans sa robe. Mais ici, c'est la mariée qui arrive en premier. La mariée entre en premier. L'agneau, il se fait attendre. C'est l'Église qui arrive en premier, elle s'est parée pour son époux, elle s'est toute préparée. Son époux, qu'elle attend? L'époux, l'agneau de Dieu, Jésus. Il s'agit d'un mariage sans pareil. Un mariage pour l'éternité. Celui de Dieu avec son peuple qui forme un couple sans pareil. Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Alors, la vie sainte ici, eh bien, elle est à la fois l'épouse de Dieu et le lieu d'habitation du couple. La nouvelle Jérusalem est à la fois l'épouse et là où le couple habite. Parce que les deux, Dieu et son épouse, ne font plus qu'un. La gloire future de Jérusalem céleste, c'est la gloire de Dieu. Rien de moins. La gloire de Dieu. C'est marqué. Elle arrive avec la gloire de Dieu. Nous aurons la gloire de Dieu. Alors, un ange demande à Jean de venir pour lui montrer la Jérusalem céleste. Et il va nous la décrire. Beaucoup d'images dans ce texte. Il nous décrit avec des images et des dimensions qu'on a du mal à imaginer. Mais faut juste, je veux dire, recevoir. recevoir ces textes, ça échappe à nos sens même. Pour le moment, ça échappe à nos sens. Parce que tant ces images sont merveilleuses, glorieuses, et elles nourrissent notre espérance. Le verset 11 du chapitre 21 résume ce qui va suivre. Puisqu'il nous est dit que la Jérusalem céleste avait la gloire de Dieu. Verset 11, la Jérusalem céleste a la gloire de Dieu. C'est la première chose que j'en vois, tellement il est ébloui par cette lumière glorieuse qui est la lumière de Dieu. Avec des images de pierres très précieuses de toutes sortes qui sont décrites. Peut-être on n'est pas habitué, hein, mais quand même, il y a une telle insistance sur les pierres précieuses pour bien montrer la gloire qui reposera sur la Jérusalem céleste. Cette Jérusalem, elle est entourée d'une grande et haute montagne, muraille, une grande et haute muraille. On va voir les dimensions. Et cette muraille, elle n'aura pas de brèche, comme la muraille de Jérusalem en a eu. Celle-ci, il n'y aura pas de brèche. Et sur ces murailles se trouvent 12 portes tout autour. Elle est carrée, hein? 12 portes, 3 sur chaque côté. Sur ces portes sont inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. Et la muraille repose sur 12 fondements qui portent les noms des 12 apôtres. 12 tribus, 12 apôtres. 12 pierres précieuses. Ces apôtres sont comparés à des pierres précieuses. Et oui, l'église est construite sur le fondement des apôtres. L'église est construite sur le fondement des apôtres. Les apôtres sont ceux qui ont connu Jésus en chair. Ils l'ont vu de leurs yeux. Et effectivement, c'est par leur travail que nous sommes là aujourd'hui. Jésus les a mandatés pour continuer le travail. Et ils forment le fondement de la muraille. Les 12 apôtres. Les 12 apôtres qui ont connu le Messie, Jésus, issu du peuple juif. Si vous voulez une référence, Éphésiens 2, verset 20. Donc cette cité, c'est une cité avec 12 portes qui vont dans toutes les directions. Eh bien, elle est pour le peuple entier de Dieu, qui vient de toute nation, de toute culture. Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la culture, quel que soit l'arrière-plan. Parce que Dieu veut des disciples de toute nation, d'origine juive ou non juive, de n'importe quel continent, et des disciples de tous les temps. Alors si on se penche maintenant sur les 12 pierres précieuses dont il est question ici, eh bien ça fait référence à l'Ancien Testament. Vous savez, le grand sacrificateur, le grand prêtre, il avait un pectoral carré. Le pectoral était carré, et sur ce pectoral étaient enchâssées des pierres précieuses, 12 pierres précieuses. Et ces pierres précieuses portaient le nom des 12 tribus d'Israël. Ce qui fait que lorsque le grand prêtre venait dans le temple, eh bien, il représentait le peuple, il portait sur sa poitrine les noms des 12 tribus d'Israël. Il représentait le peuple devant Dieu. Et le peuple était ainsi représenté sur le pectoral. Pour nous, chrétiens, eh bien, Jésus est notre grand prêtre qui nous représente devant Dieu. Et il représente Dieu pour nous. C'est pas par hasard si, eh bien, il est fait mention de pierres précieuses parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. La ville a des dimensions qui sont celles d'un cube, qui font 12 000 stades. De haut, de long et de large, un cube. Alors, pour vous donner une idée, ça représente à peu près 2500 km de haut, 12 000 stades. En tout cas, la Jérusalem céleste, elle s'étend du ciel à la terre. Et la Jérusalem céleste unit le ciel à la terre. C'est le mariage entre le ciel et la terre. La muraille fait 144 coudées de haut, ça représente à peu près 75 mètres. Mais ce qu'il faut retenir, je crois que c'est ce qu'il faut retenir plus que ces chiffres-là, c'est que ces dimensions sont toutes des multiples de 12, des multiples parfaits de 12. Et 12, ça évoque la plénitude. La plénitude, ça veut dire que personne du peuple de Dieu ne manquera à ce moment-là. On sera tous présents. On sera tous parfaits. Et on jouira d'une sécurité et d'une stabilité parfaite, inviolable, avec une muraille sans brèche. Mais quelque chose manque quand même à ce niveau-là, dans cette cité. Quelque chose manque qu'il y avait dans l'ancienne Jérusalem. Il s'agit de quoi ? Il s'agit du temple. Cette ville n'a pas de temple. Et pour cause, pourquoi n'a-t-elle pas de temple ? Mais il nous est dit que Dieu est son temple. Verset 22. Dieu est son temple. Et inversement, toute la ville est le temple. Toute la ville est le sanctuaire où Dieu habite. La ville habite en Dieu, Dieu habite dans la ville. Nous ne faisons plus qu'un, nous ne ferons plus qu'un avec Dieu. Dieu et son peuple ne font plus qu'un. Pas besoin de temple, Dieu est le temple. Et nous sommes le temple de Dieu. Alors au ciel, comment est-ce que ça sera au ciel? Parfois on s'inquiète, oh là, est-ce qu'on va rester comme ça sur un nuage, on va rien avoir à faire? Non. Non, 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 ne nous inquiétons pas, on s'assurera, ça sera passionnant. Ça sera passionnant. Et on régnera avec Christ, verset 5, et nous le servirons. Comment le servirons-nous? En l'adorant. Il sera en face de nous, on le verra. Et nous ne pourrons rien faire d'autre que de l'adorer, avec une vie riche, bien plus riche que celle que nous avons ici. Nous le verrons face à face. Nous serons tous transformés à son image. Voir 1 Jean 3, verset 2. Et puis déjà, eh bien, nous aurons la joie de nous retrouver tous ensemble là-haut. Déjà, nous partageons cette joie déjà de nous voir en Église. Mais là-haut, ça sera une joie qu'on ne pourra pas mesurer. Tous les croyants, nous nous retrouverons là-haut. Et vous savez, j'entendais, on parlait avec Brigitte ce matin de quelqu'un qu'on a connu de notre ancienne Église et qui s'inquiétait de ne pas revoir ses bien-aimés là-haut, dans le ciel. Elle s'inquiétait que ses membres de sa famille n'étaient pas convertis. Et puis, elle se disait, mais quel intérêt d'aller là-haut s'ils ne sont pas là? Mais même s'ils ne sont pas là, bien sûr, on sera content qu'ils soient là, nos bien-aimés. Mais même s'ils ne sont pas là, nous aurons une telle joie de voir le Seigneur face à face que ça enlèvera tout deuil, toute tristesse. Il n'y aura plus, d'ailleurs, le texte nous le dit, il n'y aura plus. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Dieu lui-même, de son doigt, c'est lui qui le fera, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni tristesse. Ni deuil, ni mort, ni cri. La plus grande consolation sera de voir le Seigneur face à face. Au ciel, on n'aura plus besoin de demander quoi que ce soit au Seigneur. Le simple fait d'être en sa présence nous apportera la plus grande joie. On sera comblé. On sera comblé. Nous connaîtrons la plénitude de la joie de nous tenir éternellement en sa présence. Nous faisons plus qu'un avec lui dans une communion parfaite. On ne se cachera plus, comme Adam et Ève se sont cachés quand Dieu les a cherchés. Si on fait référence à l'Ancien Testament, le lieu très saint dans le temple, il avait aussi des dimensions carrées. Voire 1 roi 6-20, si vous voulez la référence. La dimension carrée. Dans la Jérusalem céleste, qui a des dimensions carrées, tout est saint. Tout est saint. Tous les habitants sont prêtres. Nous sommes tous adorateurs du vrai Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre le saint et le profane. Dans l'ancien monde, il y avait une séparation. Séparation entre le ciel et la terre, entre la terre et la mer. Séparation entre le jour et la nuit. Ici, la mer a disparu. Il n'y a plus de nuit. La ville est éclairée de la lumière divine. Les portes sont constamment ouvertes. Verset 15, chapitre 20, 21, verset 15. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune séparation entre Dieu et son peuple. Par contre, il y a une séparation qui subsistera. Pas avec son peuple, mais avec les autres. À ce moment qui est encore à venir, je précise, et je vais y revenir, hein, à ce moment encore futur, il y aura une séparation avec tous ceux qui n'auront pas voulu croire, qui ne se seront pas repentis. Nous ne pourrons pas entrer dans la cité céleste. Les menteurs. Si vous avez remarqué, les menteurs sont cités trois fois dans ce passage. 21 verset 8, 21 verset 27 et 22 verset 15. Les menteurs n'auront pas droit de citer. Et font partie des menteurs les hypocrites qui mènent une double vie. Frères et sœurs, le mensonge n'a pas sa place. N'aura jamais sa place dans le ciel et n'a pas sa place dans l'Église. L'Église, elle est, je cite 1 Timothée 3, 15, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ne pourront pas entrer donc les menteurs, ne pourront pas entrer non plus les incrédules, convaincus, ceux qui n'ont pas voulu croire. Et puis aussi, il est question des lâches. Les lâches, les indécis. Alors, ne nous méprenons pas, nous connaissons tous la peur, nous avons tous peur. Que ce soit la peur de témoigner, La peur, on la connaît tous. C'est ce que nous faisons avec la peur, qui peut être une entrave. En fait, là, il s'agit de ceux qui n'auront jamais su se décider pour Christ, qui n'auront jamais pris une décision claire, qui ne l'auront jamais confessé. Nous ne pourrons pas entrer dans la cité céleste ceux qui sont devenus abominables et idolâtres parce qu'ils ont adoré l'antéchrist. Dehors aussi les débauchés, les meurtriers, bref, tous les non-repentis pour qui est réservée la seconde mort. Et la seconde mort, c'est l'enfer. L'enfer qui est quoi ? Une séparation éternelle avec Dieu. Séparation qui n'existe plus avec les croyants. Ces personnes, les non-croyants, se sont exclus d'elles-mêmes en rejetant Dieu, sciemment. C'est une réalité. Et à ce moment seulement, j'ai dit bien, on n'y est pas encore, il sera trop tard pour entrer dans la cité céleste. Je vous ramène à la parabole des 10 vierges. Nous pourrons entrer dans la cité que les inscrits dans le livre de vie, c'est-à-dire les sauvés de toute nation, de tout peuple, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, qui ont été lavés de leurs péchés, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, mort sur la croix pour eux, pour nous. Et ils sont heureux, nous dit le verset 14. Heureux d'avoir lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et il y a une autre condition pour être heureux. Verset 7, émise directement par Jésus. Lorsqu'il dit, verset 7, du verset 22, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Heureux. Heureux es-tu si tu te nourris de cette parole et si tu gardes ces paroles dans ta vie, chaque jour de ta vie. Tu es heureux, tu es heureuse. Mon deuxième point, eh bien, ce texte est là pour nous dire que nous ne ferons plus qu'un avec Dieu, parce que l'Écriture tout entière, de Genèse à Apocalypse, ce texte est là pour nous dire que l'Écriture tout entière est parole de Dieu. Et l'Expo Bible, on aura une conférence sur justement la Bible en tant que parole de Dieu. Et qu'on peut y faire confiance. Ce texte est là pour nous dire que c'est Jésus lui-même qui atteste que ce que j'ai dans les mains, l'Écriture, c'est sa parole. Elle est fiable à 100% de Genèse jusqu'à Apocalypse. Elle est attestée par Jésus qui lui-même se dit le commencement et la fin. Alors voyons ce point. Donc l'Écriture tout entière est parole de Dieu attestée par Jésus lui-même. Ce texte d'Apocalypse, il fait écho au texte de Genèse, à bien des points. L'Écriture commence par un mariage, celui d'Adam et Ève. Et il s'achève par un mariage glorieux, celui de Jésus avec son Église. L'Écriture commence avec le paradis originel, le paradis perdu du Jardin d'Éden. Et il se termine avec le paradis perdu retrouvé, mais en mieux, en mieux. L'arbre de vie au milieu de la place, de la cité, rappelle l'arbre de vie au milieu du Jardin d'Éden qui était parcouru par un fleuve. Voir Genèse chapitre 2, versets 9 et 10. Dans la cité céleste, le fleuve, il est intarissable. Il est purificateur parce qu'il vient directement du trône de Dieu. Et ce fleuve, eh bien, il nous rappelle l'Esprit de Dieu qui coule, que Dieu a donné depuis Jésus et que nous pouvons recevoir, auquel nous pouvons nous abreuver. L'arbre de vie donne son fruit mensuellement, en permanence. Ses feuilles sont pour la guérison des nations. Voir Ézéchiel chapitre 47, vous avez des références dans l'Ancien Testament. Ces guérisons, eh bien, ces feuilles sont là pour guérir tous ceux qui ont été... Voilà, nous tous, nous avons été affectés par le péché, pour guérir des séquelles laissées par le péché, guérir de la souffrance. L'accès à l'arbre de vie, il ne sera plus interdit. Il était interdit dans Genèse. Il y avait un ange qui gardait l'accès à l'arbre de vie pour éviter que Adam et Ève d'en prendre. Car là, l'accès ne sera plus interdit. Mais il sera réservé, cet accès, à ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. À ceux seulement qui sont inscrits dans le livre de vie. Il n'y aura plus d'anathème. Anathème, ça veut dire maudit, malédiction. Le péché originel a entraîné une malédiction sur toute l'humanité. Il n'y aura plus d'anathème à ce moment-là. 22, verset 3. La malédiction sur l'humanité aura complètement disparu. Alors ce livre de l'Apocalypse qui termine la Bible, il est la conclusion de l'histoire de Dieu avec les hommes, la conclusion glorieuse. Et ce livre de l'Apocalypse, il fait écho magnifiquement au livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Pourquoi ? Parce que Dieu veut qu'on soit sûr. Il veut qu'on soit sûr que toute sa parole, de Genèse à Apocalypse, est sa parole. Et qu'on peut s'y fier. C'est toute sa parole qui est révélée. Sa parole qui est achevée. Et sa parole qui est attestée par Jésus lui-même. Jésus qui est le commencement et la fin, verset 13. Alors, comme dit Bob Souza dans son commentaire, attention, tout droit réservé. On n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit à cette parole. Interdiction d'en modifier quoi que ce soit. Si quelqu'un vous dit qu'il a une nouvelle révélation, ça arrive, ça, c'est arrivé. Ah oui, il y a une nouvelle révélation qui n'est pas écrite dans la Bible. Tout est là. Tout est là. Et celui qui vous dit ça, eh bien, il risque gros. Il risque les plaies décrites dans ce livre. Et ça vaut pour les livres apocryphes de l'Église catholique. Ils font pas partie du canon. Ça vaut pour le Coran qui a été écrit bien après Apocalypse. Ça vaut pour la tradition qui est parfois mise sur le même plan que la Bible. Et si quelqu'un, et ça arrive, veut retrancher de la Bible les livres qui le dérangent, eh bien il n'aura pas accès à l'arbre de vie. Pas de vie éternelle. On termine ce livre de l'Apocalypse. Peut-être que ce livre vous a choqué quand on voit le sort final des non-croyants. Peut-être au contraire vous a-t-il réjoui par l'espérance que ce livre nous réserve à nous croyants. En tout cas, ce livre, il est là. Une chose est sûre, c'est que ce livre, par ce livre, Dieu veut que tous les hommes, pas seulement les croyants, mais les non-croyants, prennent au sérieux toute sa parole révélée. Parce que sa parole, elle n'est pas scellée, elle n'est pas fermée. Verset 10. Tout le monde peut y avoir accès. Et cette parole, Dieu veut qu'on la prenne au sérieux parce que il l'atteste lui-même. C'est Jésus lui-même qui atteste sa parole. Regardez le nombre de fois dans ces deux chapitres où il est question de sa parole. Je vais citer 21 verset 5. Dieu lui-même qui dit à Jean, écris car ses paroles sont certaines et vraies. L'ange qui dit à Jean, 22 verset 6, ses paroles sont certaines et vraies. Jésus lui-même atteste sa parole, verset 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. L'ange dit à Jean qu'il est le compagnon de ceux qui, je cite, gardent les paroles de ce livre, 22, verset 9. Verset 18. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Et verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Il s'agit de Jésus qui atteste sa parole, toute sa parole, de Genèse à Apocalypse. Tous ses livres sont sa parole. Et il veut qu'on en soit sûr. Et c'est toujours par l'écriture. On n'est pas encore dans ce temps-là. Mais c'est toujours par l'écriture que Dieu adresse son invitation à quiconque veut faire partie de l'épouse de venir maintenant pour se joindre à la Jérusalem céleste. Et d'attendre l'époux. L'époux, il n'est pas encore venu. D'attendre. Mais cette Jérusalem céleste, eh bien, je vais y revenir. Parce qu'elle n'est pas si loin que ça. La fin du livre, elle est au présent, au temps présent. Parce que ça s'adresse encore à tous aujourd'hui. L'Apocalypse s'adresse aussi aux non-croyants. Pas seulement à l'Église. Pour qu'ils l'entendent aussi. Nous sommes dans le déjà et dans le pas encore. Déjà aujourd'hui et depuis Jésus, il n'y a plus de séparation entre Dieu et son peuple. Nous sommes déjà une habitation de Dieu en esprit, nous l'Église. Voir Éphésiens 2, verset 22. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est déjà le cas. Nous nous sommes déjà rapprochés de la Jérusalem céleste. Déjà. La Jérusalem céleste qui représente toutes les choses à venir qu'on ne voit pas encore. Nous sommes sauvés en espérance seulement. Pour le moment. Et ce livre est là pour nous donner envie d'attendre l'époux. Avec foi. Au présent. Jusqu'à ce que le mariage entre Dieu et son peuple soit enfin consommé. Pour le moment, il s'agit de fiançailles. Il n'y a pas encore eu de consommation du mariage. jusqu'à ce que Dieu nous revête de sa gloire. Et regardez ce que dit Hébreux 12, 22 à 24. La Jérusalem céleste, elle n'est pas si loin que ça. Nous y sommes. Nous croyons. Hébreux 12, 22 à 24. Je vous le lis. Hébreux 12, 22, 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste. C'est déjà fait. On est déjà approchés. Mais attention, nous attendons encore l'époux. Le mariage n'est pas encore consommé. Nous avons déjà un libre accès à Dieu grâce au sacrifice de Jésus qui a enlevé la séparation à cause du péché pour nous qui croyons en lui. Et qu'est-ce que veut Dieu ? Il attend que nous nous approchions de lui par Jésus. Ce verset magnifique, Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La séparation est enlevée. Nous pouvons nous approcher de Dieu déjà maintenant. Tu peux t'approcher si tu ne l'as pas encore fait. Grâce à Jésus. Ne compte pas sur tes mérites. La Jérusalem céleste sera une ville ouverte pour les croyants. Mais à ce moment-là, ça sera fermé aux incroyants. À ce moment-là, je dis bien. Mais présentement, il est encore possible de s'en approcher, d'être sauvé. Aujourd'hui, l'Église est ouverte à tous, tous, sans distinction, pour accueillir tous ceux qui ont soif. Mais qui ne savent pas que c'est de Jésus dont ils ont soif. Tout être humain sait quand il a soif. Et quand il a soif, il sait qu'il a besoin d'eau. On sait. Et là, en ce moment, j'ai soif. Soif d'eau, si tu veux m'apporter un verre, si tu trouves. Merci. Tout être humain sait qu'il a besoin d'eau. Que c'est vital, l'eau. C'est vital. Et la soif est là pour nous rappeler qu'on ne peut pas vivre sans eau. Et tout être humain a besoin de Jésus. Le problème, c'est qu'il ne le sait pas, tant qu'on ne lui a pas dit. Tout être humain, merci. Merci beaucoup. Tout être humain a besoin de Jésus, mais il ne sait pas que c'est de Jésus dont il a soif. Et l'Église, nous sommes là pour le lui dire, en apportant l'Évangile à tous ceux qui ont soif de pardon, tous ceux qui ont soif de pardon, de vérité, de justice. Il y a du travail à faire dans nos réseaux, dans nos réseaux. Verset 17, un appel, plusieurs appels. Verset 17 du chapitre 22. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Si tu as cette soif, il est encore possible d'être sauvé et d'étancher cette soif. Si tu as soif de pardon, il est encore possible d'être pardonné. Il est encore possible de venir boire gratuitement à la source d'eau vive qu'est Jésus, de te laver de ton péché en venant à lui, lui qui a versé son sang pour toi à la croix et qui est ressuscité. Il a fait tout cela pour nous tous. Que celui qui veut vienne, prenne de l'eau gratuitement. C'est gratuit, mais il faut le vouloir. C'est ouvert à tous, mais il faut le vouloir. Et vous avez remarqué dans la Jérusalem céleste, ça sera les nations qui vont venir. Ils vont venir. Ça ne va pas leur être apporté directement. Les nations vont venir au trône de Dieu pour venir boire à cette source. Il faut le vouloir. Pour venir puiser à l'arbre de vie. Jésus promet, je viens quand ? Bientôt. Le temps est proche. Il était déjà proche du temps de Dieu. Ça fait longtemps que vous allez penser. Mais Jésus vient bientôt. C'est une certitude où le mariage sera consommé. Et l'appel individuel à chacun demeure le même. vient avant qu'il ne vienne. Viens à Jésus avant que Jésus ne vienne. Viens, crois et bois. Et là, c'est Jésus lui-même qui te donnera à boire. 21, verset 6. Il donnera à boire de l'eau de vie, de l'eau de la vie gratuitement. Il est encore possible. À cette invitation, viens, si toi-même tu réponds, amen, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, ça veut dire viens Seigneur. Si toi tu réponds amen, alors c'est que tu as changé de camp. C'est que tu as changé de camp. Tu ne fais plus partie des non-repentis pour qui la porte sera fermée. L'appel, il est encore pour toi. Et si tu réponds amen, viens Seigneur Jésus, c'est que tu as changé de camp. Tu es dans le bon camp, dans le bon côté, celui du Seigneur. Alors je termine avec cette bénédiction qui termine tout le livre, qui termine la Bible et qui termine l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Cette bénédiction qui est là pour nous aider à attendre le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous as tout révélé, ce que nous avions besoin de connaître. Ce livre, il est là, il est à notre portée, Seigneur. Toute ta parole, tu l'as inspirée, tu nous l'as laissée. Et Seigneur, je prie que les non-croyants s'y intéressent, Seigneur, pour qu'ils considèrent l'heure à laquelle nous sommes, qu'il est grand temps, Seigneur, de se tourner vers toi. Et merci parce que tu es patient, Seigneur. Tu es patient parce que tu ne veux pas que le méchant périsse. Alors donne-nous d'être fidèles, Seigneur, nous, ton Église, dans l'annonce de l'Évangile. Donne-nous de reconnaître les occasions que tu mets devant nous, parfois, ces rendez-vous que, Seigneur, que tu prépares. Donne-nous, Seigneur, d'oser, par la foi, parler de toi. Oui, parfois, on peut avoir peur, mais Seigneur, chasse cette peur et que tu sois vraiment à l'honneur, que la joie de te connaître prenne le pas sur la peur, Seigneur. La joie de partager ta bonne nouvelle de ce que tu as fait pour nous à la croix, de te sacrifier pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous ton Église de donner envie à ceux qui ont soif de venir à toi. Et donne-nous vraiment d'être au rendez-vous que tu nous fixes, Seigneur. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Garde-nous fidèles à ta parole. Donne-nous de garder ta parole, Seigneur. Elle nous gardera, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, et merci pour un si grand amour pour ce que tu nous réserves. Et je prie, Seigneur, que s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas encore fait le pas, qu'il considère, Seigneur, que c'est le moment, Seigneur. Nous sommes dans... La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors fais, Seigneur, que cette ou ces personnes n'hésitent plus à venir à toi. Appelle-les, qu'elles entendent vraiment ta voix, qu'elles viennent étancher leur soif en toi, Jésus. T'en prions. Amen. Amen. Alors, j'ai pensé à un chant Maranatha, où c'est le numéro 506, si Maranatha qui veut dire « Viens, Seigneur ».